Nous continuons notre étude de l'Évangile selon Luc, l'histoire de la vie de Jésus sur terre, racontée par l'évangéliste Luc, qui est sur beaucoup de points est très semblable à l'Évangile de Matthieu, l'Évangile de Marc, mais avec des particularités. Chacun a cru bon d'ajouter, d'insérer ou non, des détails selon le plan de l'instruction qu'il veut nous donner. On a vu la dernière prédication par Ronald Anderman que toute une série d'enseignements de Jésus, où Jésus a enseigné par une parabole, la parabole du semeur, la parabole de la lampe. Il a aussi enseigné en indiquant qui sont les vrais membres de sa famille. Qui est sa mère, ses frères, ses sœurs? Il y a un point commun dans tous ces enseignements, c'est que ceux qui sont dans le royaume de Dieu sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Donc déjà, Jésus donnait un critère très important qui caractérise ceux qui font partie du royaume de Dieu. Maintenant, le Seigneur Jésus va enseigner d'une autre manière, c'est par ses actions miraculeuses, par des grands signes. Et Luc rapproche quatre événements, quatre miracles que Jésus accomplit, où il démontre sa grande autorité, sa puissance. L'autorité de Jésus, c'est non seulement qu'il décide des choses, mais il est capable d'accomplir ce qu'il décide. Donc, l'autorité de Jésus, c'est vraiment lié avec la toute-puissance. Et on va voir que c'est l'autorité du Très-Haut que Jésus détient. Et Luc prend la peine aussi de souligner dans chacun de ces quatre miracles la réaction des gens, la réaction avant, pendant, après. Et il y a des liens à faire. Donc, lisons ensemble le chapitre 8 à partir du verset 22. Donc, l'Évangile de Luc, le troisième livre du Nouveau Testament, chapitre 8, à partir du verset 22 et jusqu'à la fin du chapitre. Luc 8, 22. « Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac, et la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et ils le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons! » Il se réveilla, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme se fit. Puis il leur dit, « Où est votre foi? » Saisis de crainte et d'admiration, ils se disaient les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci? Car il commande même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. » Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. Et lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui avait en lui plusieurs démons. Depuis assez longtemps, il ne portait pas de vêtements. Il ne demeurait pas dans une maison, mais parmi les tombes. Et en voyant Jésus, il poussa un grand cri. Il tomba à ses pieds et il dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. Même on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait ses liens et était poussé par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? »« Légion, » répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il suppliait Jésus pour qu'il ne leur ordonne pas d'aller dans l'abîme. Il y avait là un troupeau considérable de pourceaux qui paissaient sur la montagne. Et les démons suppliaient Jésus pour qu'il leur permette d'entrer dans ces pourceaux. Il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, en voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent. Ils répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été délivré. Et en foule, tous ceux de la région des Géraséniens demandèrent à Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Mais l'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait instamment de pouvoir rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison. » Et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia dans toute la ville ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici qu'il vint un homme du nom de Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Et se jetant à ses pieds, il suppliait Jésus d'entrer dans sa maison. Car il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien chez les médecins et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha de derrière, par derrière, et elle toucha la frange du vêtement de Jésus. Et à l'instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit, « Qui m'a touché? » Et comme tous s'en défendaient, Pierre dit, « Mais maître, la foule t'entoure et te presse. » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. » La femme se voyant découverte, elle vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Il parlait encore lorsque survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disait, « Ta fille est morte. N'importune plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Sois sans crainte. Crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main, et il dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. À l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent étonnés, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Wow, c'est des faits très étonnants, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui veut enlever, parce qu'il y en a qui ont déjà fait l'exercice de vouloir enlever tout ce qui est miraculeux de l'histoire de Jésus, il serait obligé finalement d'enlever toute cette section. Finalement, on doit croire ce qui est écrit sur parole, ou finalement, on rejette le personnage de Jésus complètement. Mais Luc, c'est pas pour rien qu'il met tous ces passages l'un à la suite de l'autre. On voit ce qui se dégage, la grande puissance de Jésus, son autorité. Et son autorité est liée avec le message qu'il enseignait. On lit au début du chapitre, verset 1, que Jésus allait de ville en ville, de village en village, et qu'il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Partout où il allait, c'est ce qu'il annonçait. « J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le royaume de Dieu arrive, il est là. Et voici comment vous pouvez y entrer. » Et même les actions qu'il faisait servaient d'enseignement. Et on va tirer un enseignement de ce que Jésus a fait pour savoir comment entrer dans le royaume de Dieu. Mais Jésus allait de ville en ville puisqu'il voulait enseigner à tous. Et c'est pour ça qu'il a finalement demandé à ses disciples d'embarquer sur un bateau pour traverser le lac et se rendre sur l'autre rive dans le pays de Génésie. Il y a plusieurs noms possibles. Gérasénien. Et il s'agit du lac de Génézareth, sur lequel se sont embarqués, mais c'est un grand lac. Même, c'est parfois appelé une mer, la mer de Tibériade. C'est tellement grand que lorsque le vent se lève, les témoignages montrent que c'est comme si c'était sur l'océan. Et les plus gros bateaux peuvent faire naufrage. Et justement, pendant qu'ils étaient en bateau, le vent s'est levé. Pendant ce temps-là, Jésus dormait. Et c'est compréhensible à voir toutes les activités qui l'attendent. On comprend que Jésus était fatigué. Mais il se couche dans la barque, paisiblement, et il dort pendant que ses disciples, eux, luttent contre les éléments qui se déferlent contre le bateau. Les vagues sont tellement grandes qu'ils entrent dans le bateau et ils sont sûrs qu'ils vont mourir. Et finalement, ils se tournent vers Jésus. « Maître, nous périssons! » Ils sont dans une grande peur, ils sont en panique. Le danger était réel. L'eau est très puissante. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience d'être sur un bateau dans une tempête. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais les témoignages montrent que c'est très épeurant. Les inondations qu'on vit présentement au Québec, même dans le coin de Montréal ou à Rigaud, montrent à quel point l'eau est puissante. J'entendais quelqu'un qui parlait d'une digue qui s'est ouverte hier et qui disait « il n'y a rien de plus fort que l'eau ». On est impuissant face à cela. Puis ils essayaient de refermer la digue, mais ils n'étaient pas capables. Je ne sais pas s'ils vont y arriver. Mais on est bien peu de choses lorsque la nature se déchaîne contre nous. Et en particulier, l'eau. Ça symbolise même souvent, la puissance de la mer symbolise la puissance de la création de Dieu. Et là, ils étaient pris dans une barque au milieu de la tempête et les disciples réalisent qu'ils sont impuissants. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Le danger était réel d'une noyade. Donc, ils réveillent Jésus, « Sauve-nous, on périt! » Jésus se lève, il menace la mer, donc il n'a qu'à parler. Il menace la mer et les flots, et le calme arrive. Puis il leur dit, « Où est votre foi? » Donc Jésus voit leur peur, leur panique. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose de mauvais? Ils lui ont décrit la situation qui était réelle, un danger réel. C'est leur attitude, en fait, c'est leur peur, leur crainte qui montre leur manque de foi. Donc, même face à un si grand danger, même face à la mort, normalement, puisqu'ils sont les disciples de Jésus, ils n'auraient pas dû sombrer dans la peur, puisque Jésus est à leur côté. Et on a vu les miracles incroyables que Jésus a fait dans les chapitres précédents. Il a même ressuscité un jeune homme. Il a guéri à distance des malades. Il a chassé des démons. Il a fait des guérisons surnaturelles. Mais là, les disciples, voyant le danger, ils sombrent dans la peur, comme si Jésus n'était pas à leur côté. Lorsque Jésus dit « Où est votre foi? » Est-ce qu'il parle de la foi en Dieu ou la foi en lui? Mais on comprend que c'est la même chose, en fait. Ça revient au même, puisque Jésus a démontré à plusieurs reprises qu'il détient la toute-puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Donc, leur peur dévoile, finalement, leur manque de confiance en Jésus. Et pourtant, Jésus leur avait dit « On s'en va sur l'autre rive. » Le plan était clair. Mais voyant le miracle de Jésus, les disciples n'ont pas moins peur. Finalement, leur peur se transfère. Là, c'est Jésus de qui ils ont peur. Ils craignent cet homme-là. Qui est cet homme qui est capable de contrôler les éléments? Il a simplement à menacer le vent et le vent cesse. C'est difficile à nous imaginer la scène, mais je suis sûr que si nous avions assisté à cela, on aurait sûrement été saisis de crainte aussi. Il n'y a que le Dieu créateur qui a un contrôle sur les éléments de la nature. Et lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on voit à plusieurs reprises ce qui est souligné. Il y a seulement Dieu, le créateur, qui a un parfait contrôle sur sa création. On lit dans Psaume 89, « Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, éternel? Ta fidélité t'environne. Toi seul domines l'orgueil de la mer quand les vagues se soulèvent. C'est toi qui les apaises. » La puissance divine qu'on trouvait chez aucune idole, faux dieu des peuples dans l'Ancien Testament, finalement se trouve dans un homme, en face des disciples. Ils avaient de quoi être dans la crainte. Finalement, la tempête se calme et ils arrivent à bon port, comme Jésus l'avait annoncé, sur la rive. Et l'événement qui les attend est tout aussi épeurant. Lorsqu'ils arrivent sur le bord, ils voient un homme arriver, nu. Je ne sais pas s'il portait des caleçons. Mais il arrive en criant puis il se dirige vers eux. Un homme qui est hors de son sens, qui est possédé depuis longtemps, qui vit parmi les tombes, dans les tombeaux, les cimetières. Peut-être c'est simplement pour se retirer de la population. Un coin où que normalement les Juifs ne se rendent pas. Si on est en contact avec un mort, on devient impur. Donc, il pouvait avoir la paix dans ces endroits-là. Pour sa propre sécurité à cet homme-là et pour la sécurité des habitants, on avait tenté de le garder sous contrôle. On l'avait enchaîné, on avait mis des fers à ses pieds. Et malgré cela, ils n'ont pas réussi à le contrôler. Il brisait les chaînes. Il était comme fou. Et les démons le poussaient dans le désert. Donc, non seulement les démons venaient contrôler son esprit, mais ils contrôlaient même ses membres, même son corps. Ils lui donnaient une force surhumaine. Il n'était pas capable de se maîtriser lui-même. Ça devait être terrifiant pour les disciples de voir un homme comme cela arriver. Mais Jésus, qui le voit arriver, lui n'a pas peur. Il commande aux démons de partir. Et cet homme-là, que personne n'a jamais réussi à maîtriser, se jette aux pieds de Jésus. Et il le supplie de l'épargner. Il le supplie de ne pas le tourmenter. Et même, on voit que les démons qui sont dans cet homme-là connaissent qui est Jésus. C'est pas pour rien qu'il tombe aux pieds de Jésus. Il lui dit, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? » Les démons savent qui est là devant eux. C'est le fils du Dieu Très-Haut. C'est seulement Dieu qui est appelé le Très-Haut dans l'Ancien Testament. Et ça montre sa toute-puissance, mais ça montre aussi qu'il n'a pas de chef au-dessus de lui. Si on peut s'imaginer une hiérarchie dans les autorités, les principautés dans le monde spirituel, Dieu est au-dessus de tout cela. Il est le Très-Haut parce qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, comme il le juge bon. Il n'a pas de compte à rendre à personne. Mais les démons savent que Jésus, le Fils du Très-Haut, a cette autorité-là sur eux. Et Jésus commande à l'Esprit de quitter l'homme. Mais il argumente avec lui. Donc, Jésus demande à l'homme, « Quel est ton nom? » Et l'homme répond, mais finalement, il ne donne pas son vrai nom. Il donne le nom imaginé par les démons qui sont en lui. Donc, les démons sont comme démasqués. L'homme ne peut pas donner son vrai nom, puisqu'il est finalement totalement sous le contrôle de ces démons-là. Et il répond, « Légion », qui est probablement une allusion à l'armée romaine, où une légion regroupait quelques milliers de soldats. Donc, ça nous donne une indication qu'il y avait beaucoup de démons en lui. Et finalement, leur nom commun, c'était légion. Et il supplie Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Ici, on doit avouer que la Bible ne nous donne pas beaucoup de détails sur le monde spirituel des démons. On ne sait pas beaucoup de choses. La Bible n'a pas été écrite pour nous révéler tout à propos des démons. Le sujet des démons est même secondaire. Elle est là pour nous révéler Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est que cet abîme-là? Et qu'est-ce que c'est que ces démons? Tout ce qu'on sait, ce qu'on peut déduire, c'est que les démons étaient à l'origine des anges qui sont tombés dans le péché, qui ont été déchus de la gloire qu'ils avaient, de la sainteté qu'ils avaient, de le privilège d'être des serviteurs de Dieu. Ils ont été déchus. Des anges déchus. Et leur chef est Satan. L'abîme, ça semble être un lieu ou un domaine spirituel où les démons sont retenus en vue du jugement dernier. On lit cela dans 2 Pierre 2:4. Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a livrés et précipités dans les abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement. Ou dans Jude, verset 6, « Les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres, en attendant le grand jour du jugement. » Donc, ce qui attend ces démons-là, ces anges déchus, finalement, c'est le jour du jugement, où ils seront déclarés coupables et envoyés dans les flammes de l'enfer pour l'éternité. En attendant, ce qu'ils craignent et ce qu'ils redoutent, c'est d'être liés dans l'abîme. Est-ce que les démons qui étaient sur terre à l'époque de Jésus étaient sortis de cet abîme-là, où ils n'y étaient pas encore allés? Je dois avouer qu'on ne sait pas. Ça demeure un mystère, même si c'est secondaire. En fait, l'abîme, plutôt qu'être un lieu spécifique, ça désigne peut-être simplement l'état d'être retiré complètement du domaine de la création de Dieu. Retiré des cieux, retiré de la terre. Errant sans emprise physique ou spirituelle. Mais ils redoutent cela. Et ils supplient Jésus de leur donner une porte de sortie pour ne pas être errant dans l'abîme. Et ils voient un troupeau de pourceaux, de jeunes porcs, un troupeau de cochons. Et ils lui demandent d'aller dans les cochons. Pour eux, c'est préférable qu'aller dans l'abîme, finalement. Et Jésus leur permet. C'est pas qu'ils décident qu'ils vont y aller, mais il leur permet d'y aller. Il les laisse y aller. Et ils sortent de l'homme qui est délivré. Ils vont dans les pourceaux, et les pourceaux deviennent complètement fous. Ils dévalent la côte, ils se jettent dans la mer, et finalement, ils se noient. Ça provoque leur mort. Et on devine finalement où se retrouvent les démons. Ça doit être quelque part dans l'abîme. Mais les hommes qui ont assisté à la scène, qui ont vu la libération, la délivrance de cet homme-là démoniaque, tout à coup, les pourceaux qui courent et qui se lancent dans la mer, les hommes qui ont assisté à cela étaient terrifiés et ils s'enfuient. Ils s'en vont dans leur maison, ils s'en vont dans la ville, ils s'en vont où ils habitent et ils répandent la nouvelle. Finalement, ils en parlent. Vous et moi, je suis sûr qu'on en aurait parlé aussi. Et là, finalement, l'histoire est connue par tout le monde. Et les gens arrivent en foule pour voir ce qui s'est passé. Et les gens viennent voir, et eux aussi, ils sont pris de peur. Parce qu'ils voient l'homme qu'ils savaient être possédé depuis des années, d'une force surhumaine que même des chaînes ne pouvaient pas retenir. Cet homme-là, finalement, est dans son bon sens. Il est vêtu, assis aux pieds de Jésus, délivré, et ils sont saisis de peur. Et après avoir compris ce qui est arrivé, toute la foule, finalement, est saisie d'une grande crainte, et ils demandent à Jésus de partir. « Va-t'en d'ici. » Lorsqu'on lit le même événement dans Matthieu ou dans Marc, on pourrait supposer qu'ils ne veulent pas non plus que Jésus leur cause d'autres pertes monétaires parce qu'ils viennent de perdre un grand troupeau. Bien, c'est fort possible. Mais ici, Luc insiste surtout sur le fait qu'ils ont peur devant cet homme qui est tout-puissant. Et ils le craignent. Peut-être qu'ils craignent son jugement. Peut-être qu'ils se sentent coupables. Il y avait de nombreux Juifs dans cette région-là, mais ils étaient mêlés avec les païens. Ils étaient mêlés avec des peuples qui n'adoraient pas Dieu. Et ce n'était pas le plan de Dieu, cela. La preuve, c'est que justement, il y avait des troupeaux de cochons, de porcs. Et ce n'est pas les Juifs qui mangent du porc. Donc, les Juifs et les païens étaient mêlés dans cette région-là. Sûrement que de voir un homme saint tout puissant, ils ont craint le jugement. En tout cas, ils ont craint Jésus, ils lui demandent de partir. Cette crainte est normale, mais elle est mauvaise et elle est malheureuse. Finalement, ils n'ont pas entendu Jésus leur annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils ont rejeté Jésus et sa bonne nouvelle, avant même que Jésus ait pu leur parler. Et Jésus les écoute et s'en va. Mais l'homme qui a été libéré, lui, il comprend là, qu'est-ce qui est arrivé. Et il veut suivre Jésus. Il veut devenir son disciple. Même, il demande à Jésus instamment de le suivre. Et il serait parti avec lui. Mais Jésus, lui, je ne pense pas que c'est qu'il le rejette. Au contraire, il lui fait l'honneur. Il le nomme son missionnaire. Il fait de lui son missionnaire dans cette région-là. Il lui dit, « Va raconter ce que Dieu a fait pour toi. Va dans ta maison. Va chez les tiens. Va annoncer cette nouvelle. » Donc, finalement, Jésus, à cause de leur incrédulité, la peur de la population, a dû finalement partir, secouer la poussière de ses souliers. Mais Dieu a permis qu'il y avait un homme qui avait été sauvé ce jour-là. Et finalement, c'est devenu son missionnaire dans cette terre. Normalement, Jésus, on le voit à plusieurs reprises dans l'Évangile de Luc, et lorsqu'il fait un miracle comme cela, stupéfiant, normalement, Jésus demande de ne pas en parler, de se taire. On l'a vu déjà à plusieurs reprises. Même on le voit à la fin, lorsque la jeune fille est ressuscitée. Mais on comprend que lorsqu'il est en Galilée ou dans la Judée, il ne veut pas que les Juifs, les Israélites, en entendant la nouvelle, viennent et veulent l'élire comme roi, comme chef militaire, comme libérateur. Jésus ne voulait pas cela. Mais ici, dans cette terre-là, le risque n'était pas là. Et au contraire, c'est comme un premier missionnaire chez les païens. Il y a une note intéressante. Qu'est-ce que Jésus lui envoie faire? Quelle est sa mission? Raconte tout ce que Dieu t'a fait. Et lui, il part, il obéit à Jésus. Et qu'est-ce qu'il raconte? Tout ce que Jésus a fait. Ici, l'évangéliste Luc, on voit vraiment qu'il s'adresse au lecteur, à vous et moi. Lorsqu'on lit l'histoire, on se rend compte, wow, ce que Jésus fait, c'est Dieu qui l'a fait. Ce que Dieu fait parmi son peuple, c'est Jésus qui l'a fait. Finalement, Luc est en train de nous convaincre, au fur et à mesure qu'on lit les chapitres, que Jésus est Dieu. Jésus a non seulement l'autorité de Dieu, sa puissance, il est le Créateur. Ce n'est pas pour rien qu'il a été capable d'arrêter le vent et les flots. Il est celui qui a créé le vent et les flots. Il arrive de l'autre côté de la mer. Je ne sais pas s'il a pris le temps de se reposer un peu en chemin, parce qu'aussitôt qu'il arrive, une foule l'attend. Je suppose qu'il voulait encore entendre ses enseignements, mais des guérisons. Et le chef de la synagogue vient voir Jésus et il s'agenouille devant lui. Il tombe à ses pieds. Il le supplie. Il le supplie de guérir sa fille de 12 ans qui se meurt. Donc sûrement qu'il a entendu parler de la puissance de Jésus. Mais pour qu'un chef de synagogue vienne et s'agenouille devant un homme qui n'est pas de la synagogue, un prophète itinérant, pour qu'il s'abaisse à faire cela, c'est parce qu'il était désespéré. Parce qu'un chef de synagogue, c'était quelqu'un d'important dans la population juive. Normalement, c'est lui qui organisait les cultes dans la synagogue, qui choisissait les psaumes qui allaient être chantés, le texte qui allait être lu, qui désignait les gens. Bon, on ne connaît pas tout le fonctionnement dans la synagogue, mais il était responsable du bon fonctionnement des cultes dans la synagogue. C'était un homme reconnu. Et ça ne le dérange pas, lui, d'être jugé ou méprisé par les gens de la foule. Il s'agenouille devant Jésus. Et il le supplie. « Viens sauver ma fille. » Et Jésus accepte d'y aller. Alors qu'il s'y rend, la foule le presse. On comprend, à l'époque, dans les villes, c'était des petites rues étroites. Ce n'était pas des grands boulevards à deux, trois voies. Et les gens suivent Jésus, et tout le monde le presse pour s'y rendre. Et pendant qu'il se rend à la maison du chef de la synagogue, une femme passe par derrière et touche son vêtement, dans l'espoir d'être guérie. Elle est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. C'est le même nombre d'années que l'âge de la petite fille qui est mourante. Et si vous avez une explication à me donner, vous me direz, je ne sais pas. C'est quoi? Je ne sais pas s'il y a une signification. Il y a seulement Luc qui donne ce détail-là que la fille qui a été ressuscitée avait 12 ans. Et j'ai compté le nombre de fois qu'on trouve le nombre 12 dans Luc, et c'est 12. Mais je ne sais pas s'il y a une signification. Vous me le direz si vous en trouvez une. Mais cette perte de sang de la femme, c'est pas un petit désagrément négligeable. Ça a dû lui causer une vie très pénible pendant ces 12 années-là. Elle était considérée par la population comme une femme impure. Une femme impure, il ne fallait pas lui toucher. Il ne fallait pas être dans sa présence. On lit, c'est écrit dans la loi de l'Ancien Testament, dans Lévitique 15, « La femme dont le flux de sang coulera pendant plusieurs jours, en dehors des époques de son indisposition menstruelle, ou dont le flux durera au-delà de son indisposition, sera impure tout le temps de son flux. comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son indisposition menstruelle. Tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque lui touchera sera impur, et il nettoiera ses vêtements, il se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Donc, elle a dû être rejetée pendant toutes ces années-là. Elle ne pouvait pas aller dans la synagogue non plus pour louer le Seigneur. Mais aussitôt qu'elle arrive à toucher le vêtement de Jésus, elle sait qu'elle est guérie. Il est indiqué que le flux a arrêté. Et Jésus se retourne et demande « Qui m'a touché? » Et peut-être que les gens pensent qu'ils vont être réprimandés par Jésus, mais tout le monde se défend. « Non, c'est pas moi, c'est pas moi. » Mais Pierre dit à Jésus, « Oui, mais tout le monde te touche. Tu es pressé par la foule. » Jésus dit, « Non, il y a quelqu'un qui m'a touché d'une manière spéciale, volontairement, parce qu'une force est sortie de moi. » Il y a, on comprend, une force qui a permis une guérison, un bénéfice à la personne qui m'a touché. Peut-être que Jésus savait déjà c'était qui, cette femme-là, et qu'il voulait simplement qu'elle se dévoile pour que tous sachent qu'elle était guérie et qu'elle puisse finalement retrouver une place honorable dans la société. Peut-être. Mais la Bible ne le dit pas. En tout cas, Jésus demande qui c'est. Mais la femme sait que finalement, elle est découverte. Et elle vient tout tremblante. Et elle aussi, elle s'agenouille aux pieds de Jésus. Elle tombe aux pieds de Jésus. Elle a peur. Peut-être qu'elle a peur de la foule, de la pression qu'elle va devoir s'expliquer devant toute cette foule. Mais peut-être simplement aussi qu'elle a de la crainte face à cet homme qui l'a guérie de manière miraculeuse alors qu'elle était impuissante et qu'aucun médecin n'avait pu la guérir. Et à l'instant où elle a pu lui toucher, elle a été guérie. Peut-être que c'est ça qui a fait naître en elle cette crainte-là. Un homme saint, finalement, lui adresse la parole. Mais Jésus la rassure. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Ma fille, Jésus n'a pas dit cela à beaucoup de femmes. C'est très affectueux. C'est comme ma bien-aimée. On voit qu'il la considère comme dans sa famille. Et c'est rassurant, c'est très chaleureux. Ça montre la compassion de Jésus pour cette femme. Et il spécifie, pour éliminer tout doute, « Ta foi t'a sauvé. » Non, ce n'est pas parce que tu aurais fait des rites spéciaux. Ce n'est même pas parce que tu aurais fait le geste de me toucher. Finalement, ça a été un moyen pour elle de s'approcher de Jésus. Mais c'est sa foi. C'est parce qu'elle a mis sa confiance en Jésus qu'elle a été guérie. Ce n'est pas un geste de superstition où elle n'a pas débloqué une force magique ou impersonnelle. C'est vraiment sa confiance dans cet homme-là, dans Jésus, qui a fait qu'elle a été sauvée, qu'elle a été guérie. Et c'est la même chose que Jésus avait dit à la femme pécheresse, celle à qui beaucoup de péchés avaient été pardonnés et qui a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux, ses larmes. Jésus lui a dit, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Donc, ça peut être une indication pour montrer que cette femme-là qui a été guérie du flux, de son flux sanguin, c'était plus une guérison physique. Elle a été sauvée. On pourrait comprendre littéralement qu'elle a été guérie, mais la même expression avait été utilisée pour une femme dont les péchés ont été pardonnés. Je pense qu'il y a un lien, que la femme, c'est plus qu'une guérison physique qu'elle a eue. En ayant mis sa confiance en Jésus, c'est une guérison spirituelle dont elle a bénéficié. Son âme a été guérie. Une purification spirituelle. Donc, sa purification physique, comme dans la loi de Lévitique, symbolise la purification spirituelle, la purification de l'âme. Et lorsque Jésus lui dit « Va en paix », ça implique justement aussi une guérison de l'âme. La paix avec Dieu, avec son Créateur, la paix dans le cœur, la paix dans l'âme. Va en paix. Mais pendant tout ce délai-là, finalement, Jésus tarde à se rendre chez Jaïrus. Et il y a un homme de la maison de Jaïrus, du chef de la synagogue, qui arrive en disant « Bon, laisse tomber, finalement, ta fille est décédée. Ta fille est morte. » Et on comprend que même beaucoup de gens se sont assemblés pour les funérailles. Il dit « N'importe plus le maître, ça ne vaut pas la peine. Laisse-le tranquille, ta fille est déjà morte. » Mais Jésus entend ce qu'ils disent. Et lui dit, « Sois sans crainte, crois seulement. » Ou « Ne crains pas, crois seulement. » Et elle sera sauvée. En d'autres mots, tu entends dire qu'elle est morte, je dis, « Mets ta confiance en moi. Crois en moi seulement. Fais abstraction de toutes les autres choses. Je te dis que je peux sauver ta fille. Fais-moi confiance. » Et on n'a pas les paroles de Jaïrus, mais ce qu'on voit, c'est qu'il accepte de conduire Jésus à sa maison. Donc, finalement, il a mis sa confiance en Jésus. Et Jésus le suit, il se rend jusqu'à la maison. Et Jésus, pour consoler la foule qui est là, il dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort seulement. » Mais là, ceux qui étaient supposément dans les larmes, peut-être que c'était des pleureuses engagées, je ne sais pas. Et tout à coup, ils se mettent à rire de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit là? Parce qu'il savait qu'elle était morte. Et je crois qu'elle était effectivement morte. Mais pour Jésus, la mort d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la fin. C'est souvent comparé à un simple sommeil. Et Jésus se veut rassurant. Son esprit va revenir. Vous vous souvenez quand son ami Lazare était mort? On lit dans Jean 11, il leur dit, « Lazare, notre ami, s'est endormi. Mais je pars le réveiller. » Et les disciples disent, « Mais Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait en fait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Mais ce n'est pas un mensonge lorsqu'il dit que le corps dort. C'est une réalité. L'enfant de Dieu qui meurt, c'est comme si c'était un sommeil. L'âme est détachée du corps, le corps périt. Mais Dieu promet qu'à son enfant, un jour, il va redonner un corps. Il va ressusciter son corps, le restaurer. Donc, cette mort n'est que temporaire et c'est comparé à un sommeil. On lit dans 1 Thessaloniciens 4, des paroles pour nous consoler lorsque nous perdons un frère ou une sœur qui décède. « Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Et on lit dans Actes 7, 59, lorsque Étienne est persécuté, qu'il prêche et finalement qu'il est condamné à mort et que les Juifs lui lancent des pierres, le lapide. Ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, « Seigneur, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Donc, Jésus est tellement puissant que même la mort, pour lui, ce n'est qu'un sommeil. S'il décide que l'âme, ou qu'on l'appelle l'esprit, retourne dans le corps, il est tout puissant pour le faire. Et Jésus, finalement, ramène la fille à la vie par sa simple autorité. Il lui prend la main, il lui dit, « Lève-toi. » Son esprit revient en elle et elle se lève. Puis il ordonne qu'on lui donne à manger. Tout de suite, on voit qu'elle était vraiment ressuscitée. Elle peut manger. Et on voit encore là une touche où on voit la compassion de Jésus qui se préoccupe tout de suite de son état. Elle a faim, donnez-lui à manger. Et ses parents sont stupéfaits, étonnés. On peut dire, en québécois, ils tombent sous le dos de voir cela. En tout cas, ils tombent. Et Jésus leur recommande, contrairement à ce qui s'était passé avec le démoniaque, il leur recommande de ne pas en parler, de ne pas répandre la nouvelle. Pourtant, c'est sûr que ça a dû se savoir, parce qu'il y avait beaucoup de gens assemblés pour les funérailles. Là, les parents vont sortir pour dire, « OK, on annule ça. Retournez chez vous. » Mais quand même, on voit encore l'habitude que Jésus avait de ne pas répandre une renommée trop grande par rapport à sa puissance. Lui, ce qu'il voulait, c'était aider les gens et donner des leçons à ceux qui assistaient à cela. Quelles sont ces leçons, justement? Ces quatre miracles-là fournissent un enseignement à propos du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu que Jésus prêchait partout. Premièrement, ce qui est révélé à travers ces quatre miracles, c'est que les hommes sont impuissants. Il n'y a aucune solution que les hommes peuvent mettre en œuvre par leur propre force, par leur propre ingéniosité, par leur propre sagesse, par leur propre sainteté, pour espérer rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est symbolisé de plusieurs manières. Les disciples dans la barque sont impuissants face à la mer qui est déchaînée. Le démoniaque est impuissant pour se libérer de ces démons qui ont complètement une emprise sur lui, même sur sa parole. Il n'est même pas capable de donner son vrai nom. C'est le nom des démons qui sort. Il est impuissant. Les parents de la jeune fille sont impuissants pour la guérir. Elle meurt. Elle-même, elle est impuissante, même si elle voulait rester en vie. Elle est impuissante face à la mort. Il n'y a rien qu'elle puisse faire. Et la femme qui est guérie de son flux sanguin, Luc prend la peine de dire qu'elle a dépensé tout son bien chez les médecins. Personne n'a pu la guérir. Donc, la première chose qu'on doit comprendre par rapport au royaume de Dieu, c'est que les hommes sont totalement impuissants pour y entrer. Aux hommes, c'est impossible. Peu importe ce qu'on peut annoncer dans certaines églises, que si vous faites telle ou telle œuvre, vous améliorez vos chances d'aller dans le royaume de Dieu. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Et c'est la première condition, en fait, pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est de reconnaître qu'on est impuissant. Celui qui s'obstine et qui refuse de reconnaître qu'on est impuissant et qui veut par ses propres efforts, par sa sagesse, par son style de vie, par sa philosophie ou par une quelconque religion, s'élever au rang de Dieu et pouvoir avoir une vie après la mort, mais tout cela est vain. Et finalement, l'entrée du royaume de Dieu lui est bloquée. Donc la première condition, c'est de reconnaître notre impuissance. La deuxième condition, c'est de reconnaître en Jésus qu'il est le Tout-Puissant. Il est le seul qui a toute autorité. Et son autorité dépasse tout ce qui existe. Et même, il a l'autorité sur des choses que personne d'autre a autorité. Personne ne peut contrôler les éléments de la nature. Personne ne peut contrôler les démons. Ils prennent possession de qui ils veulent, quand ils veulent. Il y a seulement Jésus qui met des limites, ou Dieu qui peut tenir en laisse un démon. Seulement Dieu a le contrôle sur eux. Personne n'a le contrôle sur la mort. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui a décidé de revenir à la vie parce que ça ne tentait plus d'être mort? Personne n'a le contrôle là-dessus. Est-ce que quelqu'un a le contrôle par le pouvoir de sa volonté face à une maladie mortelle? On peut se soigner, et heureusement que Dieu met des médecins à notre disposition, une sagesse, et il permet souvent la guérison. Mais lorsque c'est une maladie mortelle, il n'y a rien, il n'y a aucun pouvoir qui peut faire en sorte qu'on ne va pas mourir. Et il n'y a rien qui peut nous débarrasser non plus d'une maladie qui est incrustée, qu'on ne peut pas se débarrasser d'une infirmité. Là où les hommes sont totalement impuissants et que tous les pouvoirs spirituels sont impuissants, toutes les superstitions, l'horoscope, ou peu importe les voyants qu'on peut appeler, Jésus, lui, est tout-puissant. Il montre qu'il est le seul qui est tout-puissant, le seul qui a l'autorité. Donc, il est la seule porte d'entrée pour le royaume de Dieu. Et ça, c'est la deuxième condition. Donc, la première, c'est de reconnaître qu'on est impuissant. La deuxième, c'est de reconnaître que Jésus est tout-puissant et qu'il est le seul qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Et la troisième, c'est qu'il faut mettre notre confiance en Jésus. Non seulement on croit qu'il est le tout-puissant, mais les démons croyaient aussi qu'il était le tout-puissant. Ils l'appellent le Fils du Dieu très haut. Et ils le supplient même. On voit qu'ils sont même soumis à Jésus. Et lorsque Jésus dit « Allez dans les pourceaux », finalement, ils y vont. Mais ce n'est pas suffisant, ça, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour être établi. Il faut mettre sa foi en Jésus, faire de lui son Seigneur, son Sauveur, mettre sa confiance en lui. Et cette vraie foi-là, comment elle se démontre? Ici, on voit par plusieurs exemples qu'elle se démontre par une foi qui rejette la peur, la crainte. Lorsque Jésus dit « Ne crains pas, crois seulement ». Lorsque la femme qui a été guérie est toute tremblante, Jésus la rassure. « Va en paix ». Jésus veut rassurer ses disciples et il s'étonne de leur manque de foi parce qu'ils sont dans la crainte. C'est comme un exemple opposé. Ceux qui sont dans le pays de Génézareth où ils ont eu peur de cet homme-là tout-puissant et qui lui demandent de partir, leur peur est justifiée. Mais on voit qu'ils n'ont pas mis leur confiance en Jésus et ils restent dans la peur. La foi en Jésus, finalement, va enlever cette peur-là. Plusieurs ont peur. Lorsqu'on parle de la mort, ils ne veulent pas en entendre parler parce que ça fait peur. Lorsqu'on parle de Dieu qui est un juste juge, qui un jour va juger nos actions, que tous vont être devant lui, les gens, parfois, peuvent avoir peur de cela. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ils préfèrent, finalement, que ça s'en aille loin d'eux. Cette crainte-là, elle doit partir, finalement, parce qu'il faut mettre notre confiance en Jésus. On lit dans 1 Jean 4, 15 à 19, « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. » Alors, c'est toute une promesse. « Et lui demeure en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. » Donc, il demeure, et finalement, il est dans le royaume de Dieu. « Et Dieu demeure en lui. » Voici comment l'amour est rendu parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Même en considérant qu'un jour nous allons passer au jugement, comment ne pas trembler? Comment être dans l'assurance en entrevoyant ce jour qui s'en vient? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous sommes rendus comme Jésus. Finalement, la justice de Jésus est mise sur notre compte. Et il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Amen.